Qui viennent de nous rejoindre et bienvenue dans Croque Philo. Aujourd'hui, on va parler de la philosophie et des femmes. Et j'aimerais commencer par une petite expérience ici dans le studio et je vous invite à la faire aussi à la maison. Annie, Céleste, Mélie, pourriez-vous nous citer des noms de philosophes hommes, toute époque confondue?
Aristote, Platon, mais c'est pas ça.
Pythagore.
Bergson, Preciado, qui est plus contemporain,
Rousseau,
Montaigne,
ouais. Collège.
Non, ça compte pas.
Il est philosophe.
Ouais, alors voilà, ça vient finalement assez facilement. Et maintenant, si on fait la même chose avec des noms de philosophes femmes, je vous écoute.
Est-ce que Simone de Beauvoir, ça marche ou elle faisait plutôt de la socio?
Ça marche.
Personnellement, je ne connais pas trop en philosophie.
J'avoue que je ne connais pas trop non plus.
Adèle Vendrette, elle est philosophe aussi. Elle présente
Adèle
des émissions.
Oui, tout à fait.
Pour une petite émission...
Ouais, c'est un peu plus délicat. L'expérience hein, montre généralement que, effectivement, on a peu accès à la philosophie des femmes et par les femmes. Et justement, aujourd'hui, on va se demander, parler des femmes et de la philosophie, c'est déjà se demander d'où l'on part et ce que nous interrogeons vraiment. Est-ce la question du genre féminin ou la sexuation de la pensée ? Il ne s'agit pas du tout d'introduire l'idée d'une pensée féminine ou de relever une quelconque tentative d'essentialisation de la pensée en sexuant des philosophies, des idées. Ce serait même là échapper à toute possibilité de réflexion philosophique en pointant par avance un sens prédéterminé par le texte et échappant à toutes les complexités sociologiques, historiques, politiques qui constituent la vie de la discipline dans sa réalité propre. Mais il reste que la philosophie se conjugue surtout jusque-là au masculin. Preuve s'il en est, le programme de philosophie des classes de terminale qui a dû attendre 7 rentrées 2020 pour voir entrer 5 femmes, car jusque-là il n'y en avait qu'une, c'était Hannah Arendt. Donc Hannah Arendt, philosophe, politologue, journaliste allemande, qui a travaillé notamment... sur le totalitarisme, la modernité, la philosophie de l'histoire. Et dans les textes philosophiques plus généralement, de Platon à Derrida, il s'agit surtout d'une identification des femmes à leur sexe, face à l'inverse, à une neutralisation du sujet philosophique qui concerne l'ensemble des hommes au sens masculin du terme. Cette radicale distinction entre les genres, c'est précisément ce qui interroge le statut des femmes comme sujet pensant, philosophant, et la place précisément qui leur est accordée dans l'histoire de la pensée. Non pas comme simple objet d'analyse, mais comme actrice engagée dans la réflexion. C'est parce qu'implicitement, le sujet qui philosophe se définit comme sujet masculin que la position occupée par les femmes est reléguée dans une sphère prédéfinie d'égalité, mais limitée, dans une structure générale qui n'est pas du tout interrogée. On trouve en effet peu, voire pas du tout, d'affirmation philosophique qui fait appartenir inconditionnellement les femmes à l'exercice de l'humanité. Souvent, on trouve des points sur la question sans véritablement les affronter, portant sur les tâches sociales, le mariage, la famille, le rapport sexuel, la citoyenneté, l'accès au savoir. Mais la réalité des femmes et de leur engagement est souvent niée. Aussi lorsqu'il s'agit de penser la femme comme un éternel idéalisé qui laisse bien peu de place aux femmes dans la réalité des réflexions qu'elles vont porter. Car penser l'existence de la femme, en considérant tacitement qu'elle se conjugue à l'humanité, choisir de revendiquer le terme d'humanisme au lieu d'user du terme de féminisme, c'est oublier au mieux ou nier une réalité bien tangible, bien concrète, celle des femmes, de leurs actions et de leurs pensées, et aussi de l'invisibilité de leur travail, de leurs textes, de leurs pensées. Et vous qui êtes là, dans le studio. Est-ce que vous avez une vision, ou quelle vision vous avez de la philosophie antique sur les femmes ? Comment, d'après vous, on pouvait parler des femmes ? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez ou que vous imaginez, peut-être ?
On n'avait pas les questions, c'est dur. Hein. comment les philosophes antiques parlaient des femmes ?
Oui, ou quelle, selon vous, quelle idée pouvait-il en avoir
Je pense que c'est peut-être comme aujourd'hui, il parlait de figures historiques comme des grandes personnes et des figures plus contemporaines comme des personnes à rabaisser ou des mauvaises personnes.
Ouais. Alors, effectivement, il y avait l'idée, notamment chez Aristote, mais on retrouve ça dans l'ensemble de la philosophie, avec Rousseau également et beaucoup d'autres, d'une... ça c'est beaucoup radicalement différent par rapport à aujourd'hui, mais d'une infériorité intellectuelle, physique, morale des femmes, et c'est ça qui a fait l'histoire et les grands repères de la discipline. Par exemple, on peut parler de la misogynie d'Aristote, qui disait des femmes qu'il ne leur manquait que la science de l'âme, comme on dirait aujourd'hui d'un animal qu'il ne lui manque que la parole. Mais aussi même l'ambivalence du siècle des Lumières, qui constatait souvent les inégalités politiques et sociales entre les femmes et les hommes, mais qui donnait des justifications à partir de la nature supposée des femmes, qui serait de plaire aux hommes et d'être mère. Et le fil commun qui a écrit toute l'histoire de la philosophie, c'est l'exclusion des femmes de la sphère politique et de son action. Chez Platon, par exemple, on trouve une ouverture. Car les femmes sont en théorie chez lui en libre et égales aux hommes, mais elles sont reléguées à une place idéalisée dans certains de ses dialogues, et il les rejette par là même hors de toute action morale et politique véritablement engagée, voire même de toute position sociale établie possible. Ce n'est donc pas si étonnant, alors que nombre des femmes philosophes le sont et l'ont été sur les terrains de la morale et de la politique, dans des pensées souvent dissidentes, qui valorisent l'action et une lecture active du monde, y compris en s'appropriant parfois la réflexion sur la condition même des femmes. C'est d'ailleurs en ce sens que Simone Veil, alors Simone Veil, la philosophe avec un W et non pas un V comme la femme politique, Simone Veil et Hannah Arendt ne souhaitaient pas, au XXe siècle, être considérées comme philosophes, mais préféraient se dire résistantes, militantes pour l'une et analystes politiques pour l'autre. C'était leur moyen de préserver leur action, la portée de leur pensée politique, sans être happées par le genre masculin, en sachant par là que la force de leur pensée y perdrait, sans doute. Et si on parle d'action, d'engagement, finalement, on parle féminisme. Et à quoi pensez-vous quand on parle féminisme, quand on formule féministe ?
Ça dépend, en vrai. Ça fait aller dans l'extrême. Enfin, je ne sais pas si c'est l'extrême comme les fémines, par exemple, ou juste des femmes qui demandent juste la même égalité qu'avec les hommes.
Ouais, donc on pense effectivement à des engagements et des luttes pour les droits civils et à un activisme voilà, parfois très militant. Et finalement, il y a un point commun aussi avec les femmes en philosophie et les femmes intellectuelles. Parce que l'engagement des femmes, il est pluriel. Et si effectivement, les femmes ont fait dans leur histoire, avec des engagements de terrain, le plus souvent, une volonté d'expression qui n'est pas justement celle d'un individu sexué, hein, mais d'un engagement qui vise à participer à l'histoire. Cet engagement, il peut être intellectuel, comme philosophique, historique, sociologique, littéraire, politique. Mais dans toutes les particularités de ces engagements, les femmes intellectuelles participent à l'histoire. Et on ne peut pas faire l'économie du mouvement de libération des femmes dans toute la diversité de leurs actions, même en philosophie. Car c'est bien à l'épreuve du monde et de l'histoire en marche que l'on peut voir la reconnaissance d'une pensée des femmes. D'ailleurs, on remarque que les femmes qui sont entrées tout dernièrement dans le programme scolaire de philosophie se situent dans l'époque contemporaine. Cette époque qui est la nôtre et qui a débuté il y a environ un siècle, époque qui n'a de cesse justement d'interroger la place des femmes dans la vie civile, sociale, culturelle, politique et intellectuelle. Cette interrogation-là semble accompagner la réalité de l'engagement des femmes et reconnaître mieux les rôles de chacune dans leur discipline, notamment la philosophie. Et cela passe par des actions, pour rester sur le programme scolaire de cette réforme du lycée, à un retour actif sur la réalité du travail de ces femmes. Car la philosophie et la philosophe, comme sujet pensant, a été jusque-là interrogée en creux le plus souvent, par son absence, par sa place marginale, occupée dans les programmes, dans l'histoire, par une invisibilité des textes. Par exemple, pourquoi ne pas penser, interroger la pensée de Karl Marx, comme elle a été discutée par Simone Veil? On pourrait dire qu'il s'agit surtout du passé, et que la place des femmes aujourd'hui évolue, que leurs paroles, leurs pensées trouvent leur place, la place qui leur revient. Mais l'histoire a façonné la place des femmes jusque dans leur engagement actuel. Et si, par exemple, la question du corps des femmes est toujours autant d'actualité, sur l'avortement, la PMA, la GPA, les violences, l'habillement et les injonctions qui sont faites aux femmes là-dessus, c'est parce que déjà, au début, était le corps des femmes. Chez Platon, par exemple, et de façon commune dans la Grèce antique, on lit des femmes, on découvre des femmes dont le corps est à la fois vierge et fécond. Une contradiction qui fige complètement leur existence et semble les extraire de toute réalité sociale et politique possible. Et l'histoire, justement, montre que les femmes ne se sont pas trouvées dans les mêmes engagements que les hommes. Elles n'ont pas eu à lutter sur les mêmes choses. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Elles ne sont que 6 dans un programme scolaire d'auteurs qui en compte plus de 80. Et ce, parce que leurs textes ont été rendus invisibles par une histoire faite par les hommes, pour des hommes. Pourtant, leurs engagements ne se réduisent pas à certains événements ou à des périodes particulières de lutte bien réelles pour leurs droits civils. Elles ont participé à la culture des mots, des lettres et de la pensée. Interroger la place des femmes dans la vie intellectuelle et précisément dans la philosophie, c'est donner une place, une nouvelle direction à l'histoire, composer avec elle, ne pas les exclure enfin de l'histoire en marche et reconnaître leurs engagements tels qu'ils sont, et ce, sans trahir l'histoire, mais au contraire, en l'éclairant. Parce que si nous avons commencé aujourd'hui, là, dans cette chronique, à nous demander ce que nous interrogeons, d'où vient le questionnement sur les femmes et la philosophie, c'est pour mieux éclairer le chemin que nous empruntons aujourd'hui avec les femmes philosophes contemporaines et mieux entendre leurs pensées. Et pour échapper à l'invisibilité des femmes dans les textes philosophiques, pour mieux affirmer qu'elles sont bien des sujets pensants comme les autres, quoi de mieux que de donner à lire les textes des femmes elles-mêmes? C'est en ce sens que Simone de Beauvoir, Simone Veil, avec un W, les Britanniques, Elisabeth Anscombe et Iris Murdoch, et la Suisse, Jeanne Hersch, ne sont pas seulement des noms nouveaux dans un programme, mais en tant que philosophes, elles incarnent aussi des femmes d'action. Et c'est précisément la pensée de quelques-unes d'entre elles que nous aborderons lors des prochains Croque Philo.
Merci beaucoup, Émilie. On retrouve le prochain Croque Philo dans 2 semaines. Au fur et à mesure de la chronique, j'ai pensé à plein d'autres noms de philosophes femmes, parce que ça existe. Et puis ça m'a fait penser, je peux faire une ouverture, tu m'autorises?
Bien sûr.
Ça m'a fait penser au travail de Paul B. Preciado, qui est philosophe aussi, et qui se précise, qui se situe justement précisément en dehors de la binarité du genre, des sexualités femmes-hommes, qui aborde aussi le fait que on peut avoir un spectre beaucoup plus large, mais bon, on a le temps d'en parler.
Tout à fait, et ça me fait penser aussi à une référence que j'avais envie de vous donner. Cette année est sorti chez Folio Poche l'ouvrage de Geneviève Fraisse, spécialiste de la question des femmes en littérature et en philosophie, et qui s'appelle tout simplement « Féminisme et philosophie ».